7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons de l'héritage de Martin Luther King, 50 ans après la mort du pasteur noir, figure de la lutte anti-ségrégation, assassiné à Memphis, 4 avril 1968. Alors, quelles sont aujourd'hui les nouvelles luttes pour les droits civiques et humains? Les violences policières à l'encontre des Africains-Américains ont donné naissance au mouvement Black Lives Matter. Ce mouvement est-il un prolongement du combat de Martin Luther King ou bien le débat doit-il plutôt se situer sur le terrain des inégalités économiques et de la ségrégation économique dont sont victimes les Noirs américains? Est-ce qu'il existe aujourd'hui une réelle ségrégation des Africains-Américains par l'argent? On va en discuter avec vous, Nicolas Martin-Breteau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, maître de conférence de civilisation américaine à l'Université de Lille. Nous ferons le parallèle avec les revendications dans les banlieues françaises, assez silencieuses politiquement, mais où les habitants des quartiers, en grande majorité issus de l'immigration, se sentent largement discriminés dans leur accès aux services publics, à l'emploi. Bonjour Mohamed Meshmash.
Bonjour.
Vous êtes fondateur du collectif Passons-nous, un syndicat des quartiers. Vous nous direz d'ailleurs en quoi ça consiste et ce que ça veut dire pour vous, mais qui revendique une participation, une consultation politique des habitants des quartiers. Nous parlerons aussi de la Chine avec le sinologue Renaud de Spins, où les citoyens vont être fichés et notés pour déterminer notamment leur liberté fondamentale à se déplacer. Et bien sûr, ça nous interroge. On aimerait avoir aussi vos témoignages, les voisins, sur ces nouvelles luttes pour les droits humains. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, vous pouvez aussi poster vos messages en direct sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Nicolas Martin-Breteau, Mohamed Meshmash, alors que l'on commémore l'assassinat de Martin Luther King, Winnie Mandela s'est éteinte en Afrique du Sud. Elle symbolisait en tout cas la lutte anti-apartheid. L'archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, a salué Winnie Mandela comme un symbole majeur de la lutte anti-apartheid. Et pourtant, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle a été condamnée en justice, justement pour des violences, des manquements grave à l'égard des droits humains. Alors vous, qu'est-ce que vous évoque sa disparition, Nicolas Martin-Breteau?
Eh bien, sa disparition, me semble, est une grande perte pour l'Afrique du Sud en particulier, mais plus généralement pour l'ensemble des militants antiracistes dans le monde. Ça a été une grande figure de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Elle a été une militante radicale, assumée comme telle. Et c'est la raison pour laquelle elle a beaucoup dérangé, évidemment, les suprémacistes blancs en Afrique du Sud. Le fait qu'elle soit une femme noire renforce aussi, le fait que son héritage aujourd'hui soit mitigé. Elle aurait été un homme, elle aurait été, me semble-t-il, universellement reconnue comme l'une des grandes militantes pour les droits humains en Afrique du Sud. Donc il me semble que c'est une grande dame qui part et qui laisse derrière elle un héritage tout à fait remarquable, qui s'inspire d'ailleurs du mouvement Black Power aux États-Unis des années 60-70.
Ouais, un mouvement aussi très radical.
Absolument.
Mohamed Meshmash, pour vous.
Bah écoutez, moi je ne la connais pas spécialement, même si effectivement on en a entendu parler. Je connaissais plus son mari, quoi, et les luttes qui menait. Et souvent, on prend référence plutôt à Nelson Mandela qu'à Winnie. Donc, voilà.
Nelson Mandela, qui d'ailleurs, non seulement s'est séparé de Winnie Mandela dans les années 90, mais qui a pris aussi ses distances politiquement avec elle.
Hein. Oui, c'est ce que l'histoire nous raconte. Après, bon, voilà, je pense que. Enfin, moi, je fais confiance à l'historien qui, clairement, a pu nous évoquer quels sont les combats. Et puis, plus il y aura effectivement de personnes comme cette dame, c'est ce qu'on manque. Justement,
je pense figures, hein, des symboles.
Ouais, des figures et puis des symboles, je veux dire, voilà.
Des héroïnes, des héros.
Ouais, parce que on avait un petit échange à l'extérieur en disant que le militantisme aujourd'hui, il commence à prendre une autre forme et il est un peu moins politisé, quoi. Et je trouve dommage parce que du coup, on oublie le pourquoi du comment certains ont combattu pour pouvoir avoir des acquis. Et c'est bien dommage d'ailleurs.
Alors justement, faut-il repolitiser le combat pour les droits humains ou doit-il rester bien circonscrit dans la société civile ? Vous écoutez 7 milliards de voisins. Quelles sont pour vous les nouvelles luttes pour les droits civiques et humains dans votre pays ? Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète se part.
On est en ligne avec un auditeur qui nous appelle de Guinée-Conakry. Bonjour Mossadou.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les unités de la RFI.
Mossadou, alors vous, vous souhaitez vous exprimer sur la façon dont vous ressentez les atteintes aux droits humains dans votre pays, la Guinée-Conakry.
Oui, oui.
On vous écoute.
Je souhaite prendre la parole ce matin pour m'exprimer sur un sujet qui m'étaronne les esprits. Et qui sur qui je m'élève. Il s'agit bien entendu de la population carcérale en Guinée. Pourquoi ce sujet me préoccupe ? C'est pour la simple et bonne raison que ces prisonniers vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Mmh. On parle aujourd'hui de la défense des droits de l'homme, des droits civils, ainsi de suite. Mais vraiment, si vous aurez la chance de visiter les prisons en Guinée, les prisonniers sont dans des conditions extrêmement difficiles. Ils manquent à l'accès d'hygiène propre. Oui, les prisons,
tout récemment, il y a l'ONG Assoir Guinée hein, qui a d'ailleurs lancé une distribution massive de savon, de lessive, enfin vraiment de produits de toute première nécessité pour les prisonniers en Guinée. Je crois qu'il y a un taux d'occupation selon le site internet Prison Insider de 400% et donc des conditions de vie assez terrifiantes.
Oui, avant ce lancement-là, madame, il faut signaler une seule chose. C'est que ces prisons-là, il y a une surpopulation totale d'abord.
Oui.
Là, c'est incisé vraiment à souligner. Hormis ça, il y avait aussi une saleté énorme qui dégage dans ces prisons-là. Hormis cette saleté, il y a une odeur nauséabonde qui passe en pleine dans ces prisons-là. Et puis, bon, les prisons ne répondent pas du tout aux qualités d'une prison digne de nom. Regardez la maison, par exemple, la maison centrale à Conakry, ici, on parle vraiment que c'est la plus grande prison de la Guinée, mais si vous fréquentez la prison là, vraiment, c'est vraiment déplorable.
Ça a été votre cas, Mossadou ? Vous parlez en tant que personne qui a vécu cette situation ?
Non, personnellement, j'ai pas vécu, mais quand même, j'ai eu la chance de visiter la prison là, mais ce que j'ai trouvé là-bas, j'ai constaté, c'est vraiment révoltant, c'est vraiment bouleversant.
Alors, toujours selon le site Prison Insider, 65% des prisonniers sont des prévenus, donc ils sont pas condamnés, il y a des délais de détention provisoire qui sont dépassés, la détention arbitraire, voire détention secrète aussi est également évoquée. Pour vous, c'est vraiment l'exemple même de l'atteinte aux droits humains, Mossadou ?
Oui, effectivement. Parce que si on regarde aujourd'hui le combat mené par Martin Luther King, c'est pour la défense des droits de l'homme, on constate ce qui se passe en Guinée, on voit que vraiment ce combat est en train d'être foutu en l'air par les autorités guinéennes, parce que ces prisonniers-là doivent quand même être traités comme des êtres humains. Mais ils sont s'il faut le dire, malgré qu'ils ne sont pas ils ne sont pas du tout soumis à une torture, mais ils sont quand même, ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles, qui est plus difficile d'ailleurs que la torture. Parce que quand vous finissez de manger, vous retournez dans un endroit qui ne dégage pas vraiment l'air pur, qui dégage une odeur nauséabonde. Là, vous ne vivez pas, donc vous survivez. Donc c'est l'air vivant en danger.
Merci Mossadou de nous avoir appelé pour évoquer ce sujet. Vous évoquiez Martin Luther King qui a été emprisonné d'ailleurs à plusieurs reprises aux États-Unis.
Absolument.
Et effectivement, qui s'est à travers cette expérience carcérale violente. On parlait aussi de Winnie Mandela, hein, qui avait fait 17 mois de prison au tout début de sa carrière politique aussi. Est-ce que l'emprisonnement des personnes qui sont en lutte participe à se forger ensuite une identité de lutteur politique ?
Oui, je pense que c'est tout à fait exact. Et ça rejoint ce que disait Mohamed Mechmash. C'est-à-dire que le pouvoir ne cède jamais des droits gratuitement. C'est-à-dire que les droits dont on peut jouir aujourd'hui sont obtenus de hautes luttes. Et historiquement, les Noirs américains, mais plus généralement, tous les militants antiracistes à travers la planète, ont dû subir la répression d'État, en particulier la prison. Et ce fut le cas de Martin Luther King, qui a passé une partie de sa vie littéralement en prison. Il n'était pas le seul. Beaucoup des militants du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis ont été emprisonnés. Il a d'ailleurs, lui, Martin Luther King, écrit l'un des textes les plus célèbres de sa carrière depuis la prison de la ville de Birmingham en 1963. Effectivement, ça forge cette expérience violente de la prison, forge une conscience politique toute particulière et exprime le fait que, encore une fois, les droits, l'égalité, la liberté, etc., se conquièrent de hautes luttes, et en particulier contre le pouvoir.
Ouais. Et alors, bien évidemment, Mossadou faisait allusion aux conditions carcérales, y compris pour les prisonniers de droit commun, hein, ceux qui ne sont pas des prisonniers qui luttent pour les droits civiques, mais dont les conditions carcérales sont clairement des atteintes aux droits de l'homme, tout simplement. Armelin nous appelle de Dakar. Bonjour Armelin.
Bonjour Emmanuel.
Armelin, vous nous appelez de Dakar, mais je crois que vous êtes gabonais.
Oui, je suis gabonais, voilà.
Oui, et vous souhaitez vous exprimer sur des atteintes aux droits humains au Gabon, c'est cela?
Oui, c'est cela.
On vous écoute.
Le cas de mon pays, le Gabon, en 2016, après les élections, il y a eu des répressions en force électorale qui ont été liberticides. En fait, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles, vous vous rendez compte, sur les populations qui manifestaient passivement. Donc là, déjà, il y a eu des violations du droit. Il y a aussi eu des arrestations arbitraires, des séquestrations qui se sont effectuées en catimini. Il y a eu des blocages des réseaux sociaux sur toutes les tendues du territoire. Donc on assistait vraiment à des scènes qui créaient un climat délétère dans le pays et une ambiance anxiogène. Donc, si après 50 ans, la mort de Luther King, en 2016, jusqu'à même en 2018, on constate encore que dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas accès à tous les droits humains.
Ouais, comment des violences post-électorales et notamment une contestation de la victoire d'Ali Bongo, comment cela a pu déboucher sur des violences et des violations des droits humains, hein, finalement?
Je ne suis pas sorti, mais j'ai vécu ça personnellement. On ne pouvait même pas sortir de chez nous. Les violences ont commencé parce que les gens ont commencé à manifester en demandant juste un recontage des voix. Et tout ce que les gens ils demandaient dans leur manifestation pacifiquement, ils sont fait tirer à balles réelles, vous vous rendez compte?
Merci Armelin de nous avoir appelé. Hein. Je précise que le Gabon n'a accepté aucune enquête internationale sur ces violences post-électorales, mais a saisi la CPI, la Cour pénale internationale, qui pour l'instant ne s'est pas prononcée sur sa capacité à répondre à ces questions. Merci beaucoup Armelin. Alors on va revenir aux États-Unis, 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King. Quelles sont les nouvelles luttes? Vous nous le disiez, à votre échelle, dans votre pays, vous avez des exemples, il reste en tout cas des discours de Martin Luther King, je dirais même des bribes de discours qui sont aujourd'hui largement exploités pratiquement comme des produits marketing.
I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its dream. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the Red Hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream one day.
Quand le célèbre discours du King inspire un DJ irlandais, Baker Matt, ça donne une chanson, un tube de boîte de nuit, One Day. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nicolas Martin-Bretot, vous l'historien des États-Unis?
Oui, alors ce tube de boîte de nuit est bien connu et le discours qui sert de support à cette musique est encore plus connu. C'est le discours de 1963, du 28 août 1963 que King a donné au moment de la marche sur Washington. C'est l'un des discours les plus célèbres de l'histoire des États-Unis, peut-être l'un des discours les plus célèbres du XXe siècle. C'est un discours dans lequel il fait part de son rêve. Son rêve de rédemption et de réconciliation des groupes raciaux aux États-Unis. Dans le passage qu'on vient d'entendre, il dit notamment qu'il espère que plus tard, les États-Unis s'élèveront à la dignité de la croyance démocratique, que les anciens, que les fils d'anciens esclaves et les fils d'anciens propriétaires d'esclaves s'assieront à la même table. Et on voit que la réutilisation de ce discours, dans un tube musical, montre à quel point, l'héritage radical de Martin Luther King a été édulcoré. Ripolliné, si l'on veut.
Dépolitisé.
Complètement dépolitisé en partie, où des bribes de discours sont utilisées pour faire du marketing. On vend des pins Martin Luther King, des stylos Martin Luther King, des t-shirts Martin Luther King. C'est devenu depuis plusieurs années, absolument. C'est devenu une sorte d'icône, du néolibéralisme marchand. Mmh. Alors que Martin Luther King, au moment où il est assassiné en 1968, est une figure du radicalisme américain. Il est pour cela détesté par l'immense majorité des Américains blancs, qui le considère comme un traître à la nation, un crypto-communiste, aux ordres de Moscou, etc., etc. Et il défend, en 1968, des positions à la fois très antiracistes, mais aussi anti-impérialistes, c'est la guerre du Vietnam, et anti-capitalistes.
Ouais. Et alors, 50 ans après son assassinat, quelle est aujourd'hui la réalité de l'Amérique qu'on a qualifiée de post-raciale, qui a été gouvernée par un président noir, Barack Obama, pendant 8 ans ?
Alors, l'élection de Barack Obama en 2008 constitue un événement tout à fait extraordinaire dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. C'est un pays qui s'est fondé historiquement sur l'exclusion d'une partie de sa population, les esclaves noirs. Le fait qu'en 2008, Barack Obama puisse être élu en tant que premier président noir de cette République est un événement dont il ne faut pas gommer l'importance historique et symbolique.
C'est les déceptions dans la communauté noire de ces deux mandats.
Alors ensuite, le fait que Barack Obama ait été élu à la tête du pays n'a pas entraîné un effacement en fait des inégalités raciales et des tensions raciales à l'intérieur du pays. Et il est paradoxal de voir que c'est pendant les mandats de Barack Obama que s'est constitué le plus vaste et le plus puissant mouvement de mobilisation politique noire depuis le mouvement pour les droits civiques, le mouvement Black Lives Matter.
Ouais, alors ce mouvement-là, est-ce que justement il est vraiment le mouvement du prolongement de l'action de Martin Luther King, ce mouvement qui est donc qui est né à la suite de violences policières, d'ailleurs en partie fondées par des femmes, il faut pas l'oublier. La vie des Noirs compte, les vies des Noirs comptent. Est-ce que c'est le mouvement qui traduit le mieux l'héritage de Martin Luther King aujourd'hui?
Absolument, c'est un mouvement qui se bat sur l'héritage, pour prolonger l'héritage de Martin Luther King. Martin Luther King, dans les années 50 et 60, se bat pour les droits civiques des Africains-Américains, c'est-à-dire la liberté d'accéder, par exemple, aux services sociaux, à tel restaurant ou à tel hôtel. Donc il se bat contre la ségrégation et la discrimination raciale, mais en même temps, il se bat aussi pour des droits humains, plus largement, c'est-à-dire pour l'égalité sociale. C'est pour ça qu'il a des positions très anticapitalistes. Il se bat contre les inégalités sociales en général. Et aujourd'hui, le mouvement Black Lives Matter prolonge ce combat en insistant sur les inégalités structurelles qui sont à l'origine de la reproduction de l'inégalité sociale et raciale aux États-Unis.
Pour revenir d'abord sur les violences policières, puisque c'est là-dessus que s'est constitué ce mouvement, on a 23% des personnes qui ont été tuées par des forces de police en 2017 étaient noires, alors que les noirs ne représentent que 12% de la population,
à peu près.
Les noirs sont condamnés à des peines de prison plus longues, à crime égal comparé aux blancs, 19% plus longues. Je ne sais plus si en cas de condamnation judiciaire, on peut perdre à jamais son droit de vote dans certains États aussi, me semble-t-il.
Absolument.
C'est le cas en Floride.
Absolument.
Donc ça veut dire qu'on a des Noirs qui ont été condamnés, qui ont purgé par exemple leur peine de prison et qui sont déchus de leur droit de vote à vie.
C'est vrai. C'est une façon aussi de remettre en cause l'universalité du droit de vote aux États-Unis.
Mais oui, on en parle très rarement de cela d'ailleurs.
Ça fait débat aux États-Unis, mais c'est une technique employée pour exclure une partie de la population américaine de l'accès aux urnes.
Ouais, alors que le droit de vote est protégé par le système fédéral depuis 1965, en principe.
En principe.
Hein, c'est ça. Alors ça, c'est pour les violences policières. Rien que si on prend la ville de Baltimore, 2017, 343 morts. Le mouvement des maires aussi. Baltimore est une ville majoritairement noire. Le mouvement des maires qui se mobilisent aussi pour sauver leurs enfants. Si on revient à l'économie, le régime de ségrégation qui a longtemps prévalu, c'est-à-dire séparé mais égaux, n'existe plus. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que subsiste une réelle ségrégation économique ?
Oui, alors il faut, je pense, être nuancé dans la mesure où depuis les années 50 et 60, on a assisté à l'émergence et à l'affirmation d'une classe moyenne noire américaine stable et importante en nombre. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Il y a des Africains américains qui ont eu historiquement accès à des emplois de classe moyenne, à des logements de classe moyenne, dans des quartiers de classe moyenne, etc. etc. Et puis, il y a toute une partie de la population africaine-américaine, les classes populaires noires américaines, qui restent ségrégées, non seulement du point de vue racial, mais aussi social, dans des quartiers qu'on appelle les ghettos noirs, qui sont profondément...
C'est le cas de Baltimore, d'Atlanta, de Washington
Absolument, de la plupart des grandes villes américaines, qui sont habitées en leur centre par des minorités ethniques et raciales, puisque aux États-Unis, généralement, quand vous atteignez un certain niveau de richesse ou d'aisance matérielle, vous déménagez pour vous installer en banlieue. Donc le centre des grandes villes américaines abrite en général les quartiers les plus défavorisés, ces quartiers populaires qui sont en fait relégués en dehors des limites de la démocratie libérale américaine, c'est-à-dire éloignés des mécanismes du pouvoir, mais également éloignés des mécanismes économiques, c'est-à-dire des quartiers où le chômage est un chômage de masse, endémique.
En moyenne, etc. Deux fois plus important pour les Noirs que pour les Blancs.
Hein. Absolument.
Discrimination aussi dans les prêts financiers, donc dans l'accès au capital.
Absolument. Et je dirais que c'est l'une des raisons pour lesquelles les inégalités économiques et sociales entre la communauté noire et la communauté blanche est la plus marquée. La grande différence entre les familles blanches et les familles noires aux États-Unis, c'est la différence de patrimoine. Il y a des différences de revenus, ce qu'on gagne chaque mois, mais il y a une différence de patrimoine qui est beaucoup plus importante. Et la raison en est que, eh bien, sur le long terme, c'est-à-dire génération après génération, les Africains américains ont été moins en mesure d'accumuler du capital. Par exemple, comme vous le disiez, en achetant une maison, par exemple.
Dans un pays, c'est intéressant, les États-Unis qui se revendiquent toujours comme le pays où tout est possible en termes de réussite. Hein, et on peut réussir d'ailleurs même si on n'a pas de diplôme. C'est le mythe du self-made man.
Oui, enfin, c'est largement un mythe politique qui sert, me semble-t-il, à justifier les inégalités créées par le capitalisme libéral américain.
Il y a quand même une plus grande mobilité sociale dans un pays comme les États-Unis, mais les Noirs n'en profitent pas.
Ça dépend qui. Si parfois, dans la communauté africaine-américaine, vous avez des personnes qui bénéficient des opportunités économiques et sociales qui s'offrent à elles. Néanmoins, le mythe, comme on dit bien, hein, c'est un mythe du self-made man, est quelque chose qui est anecdotique à l'échelle d'une population aussi importante que les États-Unis. Elle sert en fait à mettre en avant des figures de proue, montrant que tout est possible dans ce pays. En réalité, les études sociologiques montrent très clairement et depuis longtemps que les inégalités sociales se transmettent de père en fils ou de parent à enfant, exactement comme en Europe.
Mohamed Mechmash, vous avez fondé le collectif Passons-nous, un syndicat de quartier en France. Est-ce que le combat pour les droits civiques aux États-Unis, avec tout ce qu'il a produit d'artistes de rap, de contestations chez les jeunes, de contestations musicalisées, hein, si on peut dire, a une résonance dans les quartiers en France par rapport au combat des minorités?
Oui, bien sûr. Et puis il y en a beaucoup au début qui étaient aussi engagés dans le même sens. C'était effectivement faire entendre une autre parole, d'une autre manière, pour pouvoir aussi mener un combat et faire passer des messages. Je veux dire, bon, mais je trouve qu'il y en a de moins en moins aussi. C'est-à-dire que du coup, on a aussi, à un moment ou à un autre, y compris pour ces rappeurs engagés, plutôt, on les a fait rentrer dans une case. Et malheureusement, il y a de moins en moins de rappeurs engagés qui sont censés effectivement porter une parole différemment de celle de notre engagement à nous, là, où je suis pas artiste, je suis juste un acteur associatif qui clairement fait des similitudes avec ce que j'entends aux États-Unis ou ainsi de suite. Je veux dire, on vit finalement des situations qui sont totalement les mêmes, si on devait parler des violences policières, je veux dire, et de manière dont on les vit en France, je veux dire...
Pas les mêmes en termes de meurtres de citoyens, on ne peut pas comparer néanmoins, les contrôles aux faciès...
Bah, je suis désolé quand aujourd'hui...
Ce sont des vrais débats politiques en
France. Mais ce n'est pas que les contrôles aux faciès, je veux dire, au-delà des contrôles aux faciès, il y a des gens qui ne rentrent pas chez eux. Et qui finissent par mourir sous les mains de policiers. Donc,
ce sont des affaires extrêmement rares par rapport, affaires policières et aux violences policières.
Heureusement qu'on n'en est pas jusqu'à ce stade-là, mais je veux dire, il faudrait peut-être pas attendre d'en arriver là pour pouvoir, à un moment ou l'autre, poser la question, ainsi de suite. Tout ce que je sais, c'est que depuis 1983, si on regarde bien le nombre de morts qu'il y a eu en France et de gens qui sont issus de l'immigration, croyez-moi que ça ne cesse.
C'est un vrai débat en France, notamment sur la composition de la population carcérale aussi.
Tout à fait.
Très largement issue de l'immigration.
Tout à fait.
7 milliards de voisins, 50 ans après la disparition de Martin Luther King, quels sont les combats actuels pour les droits civiques, pour les droits humains? On en discute avec vous. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Mama Mavis, oh mama, they try my patience. It's gone, who is left to save us? We mourn, I'm praying for my neighbors. They say the devil's at work and is calling favors. You say I'm dangerous, I speak for the nameless. I fly with the vultures, I be with them bangers. If change don't come, then the change won't come. If the bands make them dance, then the rain gon' come. Am I passing through the light? Am I looking through your eyes? Looking through your eyes. All the world is out of your head.
Sept milliards de voisins.
Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Look into my eyes, mama, tell me what you see. Tell me there's a chance for me to make it off the streets. Tell me that I won't die at the hands of the police. Promise me I won't outlive my nephew and my niece. Promise me my pastor isn't lying as he preach. Tell me that they'll listen if it's lessons that I teach. Tell me there's a heaven in the sky where there is peace. But until then, I keep my peace in arms. Am I passing to the light? Am I looking at your mercy? All the world is out of your hands. Another night.
Ready. We want freedom by any means necessary. We want justice by any means necessary. We want equality by any means necessary. We want it now, or we don't think anybody should have it.
La liberté, maintenant, on la veut tout de suite. Ça, c'est pas Martin Luther King, c'est Malcolm X. Hein. Finalement, on a beaucoup dit qu'ils étaient... assez éloignés l'un de l'autre, puisque Malcolm X prenait une action évidemment pas pacifique comme celle du King. Et puis finalement, c'est pas si vrai que ça. La position, vous le rappeliez, la position Nicolas Martin-Bretot du King était une position pacifique mais radicale.
Oui, on vient d'entendre Malcolm X ici qui dit que la communauté noire américaine doit combattre pour la justice par tous les moyens possibles. Et c'est bien cette expression qui est restée à la postérité, puisqu'elle fait peur. À l'époque, évidemment, à la majorité blanche, par tous les moyens possibles, y compris, sous-entend-il, par la violence. Mais il faut rappeler quand même que les militants les plus radicaux du mouvement pour les droits civiques ou du mouvement Black Power n'ont jamais utilisé la violence pour atteindre leur fin et, en tout état de cause, n'ont jamais...
Par pragmatisme aussi. Hein.
Absolument, n'ont jamais utilisé la violence comme les suprémacistes blancs l'ont, eux, utilisé en tuant, lynchant, violant, etc., des dizaines et des dizaines de militants noirs et blancs, d'ailleurs. Mais à la fin de leur vie respective, Martin Luther King est donc assassiné en 1968, Malcolm X est assassiné 3 ans auparavant, en 1965. On voit que ces deux figures du mouvement de libération noire américain se rejoignent. Évidemment, on ne saura jamais ce qu'il aurait pu se passer s'il n'avait pas été assassiné, mais se rejoignent sur des positions relativement proches qui auraient pu donner un nouvel élan au mouvement pour les droits civiques à la fin des années 60 et au début des années 70.
Mohamed Mechmache, alors on fait le parallèle avec les quartiers en France. Vous êtes le fondateur du collectif Passons-nous. C'est ce que vous appelez un syndicat des quartiers qui revendique une participation, une consultation politique des habitants de quartiers. Qu'est-ce que c'est que ce mot, un syndicat de quartiers, de banlieue d'ailleurs? Qu'est-ce que vous choisissez?
Oui, mais de quartiers, mais y compris, on peut aussi défendre ce qui se passe dans les quartiers ruraux, dans les dom-toms, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça fait 40 ans qu'on est sur la politique de la ville. Ça fait 40 ans qu'on est traité comme une exception. Ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'il faut absolument rééquilibrer les inégalités. Et on s'aperçoit que finalement, au bout de 40 ans, il n'y en a jamais eu autant. Donc, je veux dire...
Et en même temps, des plans politiques de la ville qui ont, où il y a eu beaucoup d'argent de dépenser
justement,
aussi,
alors,
il faut le dire.
Hein. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut le dire. Mais il faudrait peut-être donner aussi les explications de « il y a eu beaucoup d'argent ». Il faut savoir qu'il y a de l'argent qui est déversé dans ces quartiers. Sachez qu'avant d'arriver à ces quartiers, il y a d'abord des bureaux d'études qui en prennent une partie, il y a ensuite des sociétés qui en prennent une partie, et puis au bout du compte, quand ça arrive dans ces territoires, c'est très peu. Alors c'est facile de dire on met beaucoup d'argent dans ces territoires-là, mais en attendant, est-ce qu'il va réellement vers la population qui est censée effectivement la concerner, ou bien tout simplement elle est utilisée comme un fonds de commerce, et on continue effectivement à être un fonds de commerce pour beaucoup, que ce soit sur le domaine social, sur le domaine de l'entreprise, sur tout ce qu'il donne dans le domaine aussi éducatif, voilà, culturel, au niveau de la santé. Je veux dire, on est juste...
L'accès aux services publics, hein, tout simplement.
Le droit commun. C'est-à-dire le droit commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces territoires, le droit commun n'y est pas. Voilà. On aimerait effectivement pouvoir avoir accès à pouvoir se soigner dignement, de pouvoir se loger dignement, de pouvoir avoir la même éducation dignement, de pouvoir avoir la sécurité dignement.
Que sur le reste du territoire.
Que sur le reste du territoire.
Pourquoi les quartiers sont relativement silencieux depuis plusieurs années?
Elles le sont pas. Je suis désolé. Il se passe beaucoup de choses. Simplement, encore une fois, c'est ce que je vous disais.
Pas audible politiquement?
Non, c'est pas que c'est pas audible politiquement. Il y a des tentatives, il y a des choses qui se font. Il y a de plus en plus d'initiatives qui aujourd'hui se construisent avec des gens de la société civile, avec du milieu associatif, c'est qu'on ne nous laisse pas souvent la parole. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui, au nom, parce qu'ils seraient élus dans une banlieue, auront plus la légitimité que les acteurs qui vivent au quotidien les situations. Ceux-là, on ne les entend pas beaucoup, malheureusement.
Les Français ont vu défiler tellement de plans banlieue au fil des mandats des présidents, finalement.
Oui, mais vous savez, il faut qu'on sorte un moment du déni. C'est-à-dire que, pourquoi on s'est construit, nous? C'est que on est ce réservoir de coupables, qui à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est là qu'on va chercher les coupables. Nous, on a décidé à un moment ou l'autre d'arrêter d'être des victimes. C'est-à-dire, on a tout simplement dit, quand tu sais que ceux qui sont censés faire pour toi ne font pas, qu'est-ce que tu décides, toi, de faire pour que les choses, elles changent? Et donc, on a décidé tout simplement, à un moment ou l'autre, de se dire, il faut qu'on puisse... clairement entendre notre voix.
Alors,
et pas individuellement.
En quoi consiste votre action?
Notre action, elle est dans
l'intérêt. Finalement, vous sentez une forme de filiation avec le combat pour les droits civiques aux États-Unis?
Tout simplement, encore une fois, pour pouvoir mettre les choses sur la table, être dans l'interpellation. Simplement expliquer à ceux qui aujourd'hui ont décidé de mener des politiques dans ces territoires sans réellement y vivre.
Sans vous consulter, sous-entendu?
Sans co-construire. Je parle plus que de la consultation. La consultation, c'est un bien grand mot, quoi. On nous consulte juste à la fin, peut-être juste pour nous dire de quelle couleur on veut peindre notre cage d'escalier. Mais on nous a pas consulté au départ. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme logement qui s'adapterait un peu plus à la population qui vit là? Donc, on ne peut plus aujourd'hui, tout simplement, se laisser je veux dire, manipulés par certains, qui au moment où les choses ne fonctionnent pas, dire « ouais, mais on les a consultés mmh. ». On ne veut plus être dans la consultation.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'habitat en France est ghettoisé de la même manière qu'il l'est dans certaines grandes villes américaines ?
Mais tout à fait, il l'a été. Je veux dire, vous savez...
Il l'a été, vous pensez qu'il l'est toujours aujourd'hui ?
Mais pour certains endroits, oui.
Que cette ghettoisation s'est renforcée ?
Mais excusez-moi, je vous donne un exemple bien précis. Ces derniers temps, on vient de vivre un drame où un soldat est mort, où des personnes sont mortes du côté de Carcassonne, ainsi de suite. Mais quand vous allez dans la cité où ce criminel a tué des personnes, mais vous vous rendez compte justement du fossé qu'il y a. C'est-à-dire ce quartier est retranché. On a l'impression qu'on va dans une réserve, voilà, où on est éloigné de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de transport pour aller dans des grandes villes. On est livré à soi-même. On continue à avoir des codes à l'intérieur de ces territoires-là, sans qu'on se soucie clairement du droit commun, si effectivement on serait pas plutôt à se poser la question à sortir de tout ça. Donc ces ghettos, ils existent. Vous savez, M. Valls parlait de ghetto, et quand un Premier ministre le dit, c'est dingue que ça sonne et tout le monde le reprend, y compris les médias.
Il avait même parlé d'apartheid à l'époque, oui, ça avait beaucoup choqué.
Nous, on l'a dit bien en amont, et quand on le disait nous, de notre expertise, on n'est pas pris en compte. Alors chiche, soyons à la hauteur de Mandela et faisons en sorte d'en sortir aussi. Alors, il ne suffit pas de le dire, hein. Il suffit aussi, à un moment ou l'autre, d'actionner les politiques qui vont dans le bon sens.
La démission emblématique du maire Stéphane Gatignon de Sevran, en Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est inquiétant ?
Écoutez, ça peut être inquiétant, oui, pour la démocratie et autres, je veux dire.
Pour dénoncer le manque de moyens, surtout.
Oui, mais là, le manque de moyens, de quel moyen on parle aussi, je veux dire, encore une fois. Ce n'est pas non plus les héros de ces territoires. Il y a des luttes qui se mènent dans ces territoires. Il y a des combats qui sont menés dans ces territoires par des habitants.
Les élus locaux ne sont pas les héros des territoires, selon vous ?
Pas spécialement, non. Je suis pas entièrement, je partage pas tout ça. Parce que je vous donne des exemples. Ces mêmes élus dans leur territoire, des fois, se comportent d'une manière où la démocratie ne vit pas pleinement. C'est-à-dire que
vous faites partie de ceux qui ont reproché aux élus locaux de reculer, notamment devant l'islamisme radical, pour entretenir une forme de clientélisme avec notamment les associations.
Vous savez, je suis de ceux qui, au moment où on a lancé les alertes, en expliquant et en pointant du doigt ce qui n'allait pas, ne pas être entendu. Ceux qui, clairement, localement, ont dit à leur maire « Vous vous trompez. Vous voulez plus discuter avec des associations parce qu'ils vont vous mettre le doigt sur des choses qui vous dérangent. Vous préférez aller discuter avec des imams qui, eux, ne discuteront que d'un bout de terrain et d'une mosquée, plutôt que de discuter des problèmes de fond. C'est-à-dire qu'encore une fois, je suis désolé, c'est trop facile à un moment ou l'autre de dire, encore une fois, c'est pas de notre faute, c'est la faute des autres. On est tous responsables, peut-être, je veux dire, mais à quel degré on l'est. Donc aujourd'hui, que des maires ont décidé de démissionner parce qu'ils pensent que c'est le levier, je veux dire, ils peuvent se le permettre. En tout cas, moi qui est militant, je peux pas me permettre de démissionner. Parce qu'au quotidien, il se passe des choses illégales, injustes, où de plus en plus la pauvreté s'installe, où des gamins qui aujourd'hui sont issus de la quatrième génération ne se battent même plus pour être français. Simplement, il y a eu tellement de rejets.
Ils le sont.
Mais ils le sont, on est d'accord. C'est de la manière dont on les a considérés pendant quatre générations. Ils devraient plus se poser cette question, mais on les renvoie souvent.
Relégation sociale, c'est ça.
Mais il y a une relégation sociale qui est énorme.
Discrimination.
Il y a un rejet de leurs parents qu'on ne veut même pas reconnaître comme français à part entière. Moi, en 2005, je me suis battu pour inscrire des jeunes sur les électorales, pour leur dire « vous êtes français à part entière » et démontrez-le dans les urnes. Ils se sont mobilisés. Celle qui arrive derrière, elle n'a même plus envie d'aller se battre pour ça. Elle a juste envie, une chose, c'est qu'on les respecte là où ils sont.
Vous écoutez 7 milliards de voisins. Dans quelques instants, on donne la parole à Renaud de Spins, qui est sinologue et qui est spécialiste donc de la Chine. On va parler de la notation sociale des citoyens, puisque 50 ans après la disparition de Martin Luther King, nous nous interrogeons sur les luttes pour les droits civiques et aujourd'hui les atteintes aux droits humains.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Renaud de Spins, vous êtes en direct avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sinologue, vous avez publié le dictionnaire impertinent de la Chine aux éditions François Bourin. Les autorités chinoises sont en train d'installer un système de notes sociales des citoyens, d'ailleurs aussi des entreprises. Ça a beaucoup choqué l'opinion à l'international. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler en quoi cela consiste et comment c'est vécu en Chine ?
Oui, alors à l'international, on en a surtout parlé à partir de l'an dernier, où effectivement on a eu plus d'une dizaine de villes chinoises qui ont commencé à mettre en place des systèmes de crédit social, et où ce sont des pratiques qui nous apparaissent un petit peu de science-fiction, hein, où on a en fait l'utilisation des données massives, ce qu'on appelle en anglais le big data, et qui est évidemment utilisé par de plus en plus de grosses entreprises chinoises, notamment les équivalents de Twitter, Facebook et là-bas, et qui vont donc agréger toutes les données individuelles et pouvoir ensuite donner des notes de crédit social à des citoyens, aux citoyens, à tous les citoyens chinois, qui vont en fait moduler ensuite la façon dont ils vont avoir accès aux services publics ou à la pleine citoyenneté. Donc par exemple, et là aussi, donc ça nous a choqué chez nous, mais ça n'a pas choqué de la même manière en Chine, puisqu'il y a, une longue tradition de notation des gens en termes de classe sociale, en termes d'origine, en termes d'opinion politique, hein, depuis l'instauration du communisme. Mais c'était présenté aussi, ça a toujours été présenté et ça continue à être présenté comme un progrès, puisque l'utilisation des données massives, on va dire, quand vous avez un comportement exemplaire, quand vous ne produisez pas d'accidents de voiture, lorsque
vous ne polluez pas.
Voilà, ne polluez pas, vous remboursez tous vos prêts, par exemple, eh bien, c'est un système qui peut avoir énormément d'avantages, notamment celui d'avoir un accès pratiquement immédiat au crédit. Par exemple, vous êtes bien noté, vous avez un comportement normal ou exemplaire, et donc vous allez pouvoir, sans passer par une banque, en utilisant donc des logiciels qui vont être pratiquement instantanés, avoir accès à un crédit.
Alors il y a des formes de notation, pas du tout de la même façon, mais enfin qui donnent accès ou pas au crédit aux États-Unis, hein, il faut bien le préciser d'ailleurs. Mais là, à partir du 1er mai, le système de notes sociales sera utilisé aussi en termes de restriction des libertés, c'est-à-dire qu'on pourra empêcher les gens de prendre des trains ou des avions.
Tout à fait. Parce que vous avez donc un système de carotte-bâton, où évidemment la carotte est la plus montrée, mais en même temps le bâton est aussi un argument de la propagande en disant voilà, regardez, les mauvais comportements vont vraiment être sanctionnés.
Si on a propagé de fausses informations, si on a utilisé des billets périmés, si on fume dans un train, si on a des amendes qui sont impayées, on pourra se retrouver interdit de voyager ?
On peut déjà se retrouver interdit de voyage. Il est arrivé il y a quelques semaines à un avocat, par exemple, de ne pas pouvoir prendre un avion. Donc oui, on peut déjà.
Vous nous le disiez, en fait, ça ne choque pas tellement en Chine. Ça a beaucoup choqué l'opinion internationale, vraiment comme une atteinte aux libertés, aux droits des citoyens.
En Chine, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, toute forme d'expression d'opinion est quand même énormément limitée. Hein. Le débat civique et social a perdu en intensité.
Oui, y compris sur Internet.
Y compris sur Internet, puisque là aussi, en fait, d'une certaine manière, le crédit social moderne est né sur Internet. C'est une sorte d'évolution de notre Web 2.0. Parce que le Web 2.0, ça va être les utilisateurs qui notent, et dans le crédit social, on a aussi les utilisateurs qui notent. Par exemple, vous allez dans un restaurant, la nourriture est avariée, vous pouvez le noter, et puis ça peut avoir un impact ensuite. Et là, en Chine, la caractéristique de ce pouvoir qui est fort, c'est qu'il a énormément investi dans non seulement la censure, le contrôle, et aussi la propagande dessus, c'est-à-dire que vous avez plein de gestionnaires de communautés qui sont payés par le gouvernement aussi pour diffuser des informations positives. Donc, il n'y a pas de débat digne de ce nom, on va dire, en Chine. Et d'ailleurs, il faut le dire aussi, dans le reste du monde, pas beaucoup non plus. Vous parliez des expériences aux États-Unis. Le crédit social, il est né d'ailleurs plutôt au Royaume-Uni. Hein. Il n'y a véritablement qu'en France qu'on se pose le plus de
questions. Enfin, que l'on s'inquiète du moins.
On se pose le plus de questions sur ce système.
Merci beaucoup Renaud de Spins. Donc vous avez publié le dictionnaire impertinent de la Chine. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Et qu'est-ce que ça vous évoque, puisqu'on parlait, Nicolas Martin-Bretot, de comment finalement le pouvoir de la notation, notamment au départ par des consommateurs, pouvait arriver jusqu'à des degrés de limitation des droits civiques. C'est vrai qu'il y a, il peut y avoir des similitudes avec les États-Unis.
Oui, c'est un danger qui existe et qui fait beaucoup de débats parmi les spécialistes, par exemple parmi les historiens ou les sociologues, c'est-à-dire l'étude du pouvoir en fait de régulation des populations par l'État. Et avec le développement des nouvelles technologies, ce sont des questions qui évidemment se posent de plus en plus et qui peuvent éventuellement poser de très graves problèmes vis-à-vis de nos conceptions de la liberté, de l'égalité et plus généralement des droits.
Notamment dans le climat de lutte contre le terrorisme.
Hein. Absolument.
Vous restez avec nous, on va parler des nouvelles voix qui portent aujourd'hui le combat des droits civiques dans ces dernières minutes d'émission, juste avant la voix de Beyoncé.
With that Illuminati mess, paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama.
Beyoncé, une des voix qui... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas Martin-Bretot, mais en tout cas, dans cette chanson, elle dénonce les violences policières à l'égard des Africains-Américains. Il y a énormément d'artistes, d'ailleurs, qui se sont prononcés sur ces questions-là aux États-Unis. On a Oprah Winfrey sur le droit des femmes, Tamika Mallory aussi sur le droit des femmes, le contrôle des armes, qui est une... qui est proche du mouvement d'ailleurs Black Lives Matter. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a clairement de nouvelles voix qui seraient en passe, non pas de prendre la relève de Martin Luther King, mais en tout cas, qui sont des voix puissantes, qui sont des voix reconnues, autrement que dans le business du marketing politique?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a une évolution très marquée dans la scène politique américaine, notamment depuis la crise économique de 2007-2008, à la suite de laquelle on a vu une catastrophe économique pour des millions d'Américains noirs et blancs, en particulier noirs, mais aussi des millions d'Américains blancs en ont souffert, et qui développent chez les militants, mais aussi dans la population américaine, une remise en cause beaucoup plus radicale que ça ne l'avait été par le passé, du modèle capitaliste ultra-libéral développé aux États-Unis depuis les années 70. Et de ce point de vue, il est intéressant de voir que quelqu'un qui appartient à l'ancienne génération, Bernie Sanders, qui a été donc candidat à la primaire démocrate en 2016, se présenter comme socialiste. Aux États-Unis, se dire socialiste, c'est quand même en soi un événement, notamment quand on se présente à une élection nationale. On a donc, parmi la communauté blanche et la communauté noire, mais aussi parmi la communauté latina, dans toutes les catégories d'âge, une remise en question de ce qui a fait, pendant ces 30 dernières années, le substrat en fait, de la politique économique et sociale américaine. Ce mouvement est très puissant.
Est-ce que l'élection de Donald Trump, avec la montée d'un racisme décomplexé qui existait, mais qui se laisse entendre beaucoup plus, peut relancer, finalement, redonner un souffle à la lutte pour les droits civiques des minorités, paradoxalement d'ailleurs?
Je pense que c'est tout à fait exact. Et puis, le fait que Donald Trump, en plus, soit très véhément contre l'immigration latina, fait entrer dans le débat cette minorité grandissante que sont les latinos aux États-Unis. Et effectivement, ça peut donner un nouveau souffle à ce combat. Mais il faut bien voir qu'aux États-Unis, Donald Trump, contrairement à ce qu'on en dit en Europe, bénéficie d'un soutien puissant d'une partie de l'électorat américain, en particulier de l'électorat blanc, et il n'est pas du tout décrédibilisé de ce point de vue.
Mohamed Meshmash, vous le fondateur du collectif Passons-nous, concernant les banlieues en France, on l'a dit, la situation est explosive et en même temps relativement silencieuse en France. Je vous laisse le mot de la fin, Mohamed Meshmash. Rapidement.
La question, c'est de se poser... C'est quand on n'entend plus rien, que ça devient... problématique. Quand ça bouge, c'est que ça vit. Là, ça serait plutôt inquiétant.
Merci à vous tous. On se retrouve demain pour un autre 7 milliards de voisins sur RFI en direct.